VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon, où les Gabonais attendaient toujours en fin de matinée de connaître le nom de leur président après une longue nuit de 20 conciliabules à la commission électorale qui s'est enfin réunie pour désigner le vainqueur. Les débats au sein de cette commission qui centralise les résultats achoppent sur une seule des 9 provinces du Gabon, le Haut-Ogooué, fief du président Bongo. Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville.
Oui, la nuit a été longue, extrêmement longue, et donc selon des indiscrétions, je dis bien indiscrétions au sein de la CENAP, le blocage maintenant porte sur la région du Haut-Ogooué qui est le fief du président sortant Ali Bongo avec sa capitale Franceville. Apparemment, il y aurait raz-de-marée pour Ali Bongo et l'opposition voudrait bien qu'on vivifie bureau de vote par bureau de vote. Pour le moment, on ne sait pas comment ça va se faire, mais les discussions vont se poursuivre pour au moins les 3 à 4 prochaines heures avant qu'on ne soit édifié. Donc, on ne s'attend pas à des résultats jusqu'à peut-être en début d'après-midi. Pour le moment, on attend.
Quelle est la situation sécuritaire autour du siège de la CENAP?
La CENAP, toute la ville est quadrillée. Hein. Je pense que tous les grands boulevards, les portes de l'ordre sont bien visibles. Depuis même samedi, il y a eu une sorte de renforcement, même des contrôles policiers la nuit. Voilà, il y a plein de policiers autour du quartier de l'opposant Jean Ping, notamment sur les grands boulevards. Donc, et hier, presque tous les magasins étaient fermés, les gens ont fait leurs emplettes par crainte de violence, mais heureusement quand même qu'il n'y a pas eu de débordement toute la nuit et qu'on espère qu'aujourd'hui ce sera le cas.
Idriss Fall, envoyé spécial VOA Afrique au Gabon. En République démocratique du Congo, le dialogue national démarre demain, 1er septembre, mais les positions des partis semblent plutôt se crisper. L'opposition proche d'Étienne Tshisekedi appelle le peuple à se prendre en charge à partir de la date qui correspond au démarrage de ses assises. Quel boycott ! Entre-temps, des voix s'élèvent pour dénoncer les tentatives de corruption lors des travaux préparatoires. Eddie Sango.
Bon, écoutez, Omar Bongo, c'était une forte personnalité. C'était un patriarche sur le continent africain. Après les décès de Ofwet Boigny et Adema, Omar Bongo, et c'était celui qui était le doyen des chefs d'État africains. Mais c'était également pour les Gabonais un père, le père de la nation. Après Léon Ba, aux côtés de Léon Ba, parce que c'était le vice-président de Léon Ba.
Alors, Omar Bongo était très en vue, hein, notamment lors des rencontres des chefs d'État africains, comme par exemple les sommets de l'Union africaine.
Oui, il était très en vue parce qu'il était perçu comme le sage, comme le patriarche, comme le gardien du temple. C'était également cette personnalité qui, de l'OUA, l'Union africaine, était dans cette escarcelle qu'on appelait le syndicat des chefs d'État. Donc, il savait à la fois également adober un nouveau chef d'État ou également créer les conditions de départ d'un chef d'État. Et donc, c'était la personnalité qu'on ne bousculait pas.
Et il avait un certain franc-parler.
Oui, il avait un franc-parler vis-à-vis de ses interlocuteurs, mais vis-à-vis également de ses premiers partenaires, que sont les Français, comme il aimait le dire. La France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Donc pour lui, le Gabon et la France étaient liés.
Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de sa succession?
Oui, son fils ne lui a pas succédé de façon dynastique. À la mort d'Omar Bongo, la constitution gabonaise s'est appliquée. Donc la présidente du Sénat, qui est le dauphin constitutionnel, a prêté serment et a géré la période transitoire pour organiser les élections libres et transparentes afin d'avoir un nouveau président.
Ali Bongo n'a pas su incarner le charisme de son papa.
Oui, ce n'est pas le même style.
Qu'est-ce qui oppose réellement Jean Ping, qui était un fidèle du père Bongo, au fils Ali Bongo? Qu'est-ce qui les oppose au fond, au-delà du folklore politique?
Sur le plan politique, je pense qu'il n'aborde pas les choses de la même manière. Mais le véritable problème de fond, il est à retrouver dans l'échec de l'élection de Jean Ping à la tête de l'Union africaine.
Voilà le rédacteur en chef de la revue Afrique au Gabon. Autant pour moi, on est resté au Gabon pour parler davantage des élections, de la suite des élections dans ce pays. On parlera du dialogue congolais dans notre prochaine édition. Au moins 15 personnes sont mortes mardi dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze membre des insurgés islamistes somaliens Shebab. Selon un nouveau bilan annoncé mercredi par le chef de la police de Mogadiscio, le responsable policier a ajouté que la sécurité avait été renforcée dans la capitale où plusieurs dizaines de soldats et policiers supplémentaires ont été déployés. Plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne, entre juin et le mois d'août. C'est ce qu'ont indiqué hier les responsables des services de sécurité soudanais. Les précisions, John Lydon.
Au total, 816 migrants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Un groupe de passeurs a également été arrêté après des heures avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à deux soldats et un officier près de la frontière libyenne. Djuma Fdi Mohamed, un passeur tchadien, a expliqué recevoir environ 986 euros pour chaque migrant qu'il a fait entrer en Libye. Le Soudan est un pays de transit clé, notamment pour les Érythréens fuyant leur pays vers l'Europe. Des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent chaque jour de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6 500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations.
La police anti-émeute patrouillait aujourd'hui dans les rues des principales villes du Zimbabwe après l'appel à plusieurs mouvements de contestation lancés par des groupes d'opposants au président Robert Mugabe, signe de la tension qui règne dans ce pays secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations. Les manifestants, principalement issus de la société civile, réclament le départ du président au pouvoir depuis 1980, qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du Zimbabwe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, dans le camp démocrate, de nouveaux rebondissements dans l'affaire des emails de Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État, Timothée Donangmai.
Judicial Watch, un groupe conservateur, a soumis 25 questions écrites à Mme Clinton sur cette affaire, conformément à une décision judiciaire. Ce groupe a déposé plusieurs plaintes pour demander l'accès aux documents gouvernementaux en rapport avec les emails de l'ancienne secrétaire d'État. L'ordre du juge Emmett Sullivan est une victoire partielle pour le groupe dans la mesure où il n'est pas clair si Mme Clinton doit répondre sous serment aux 25 questions avant ou après la présidentielle de novembre. Judicial Watch soutient que la date limite est fixée au 29 septembre. On s'attend aussi à ce que le FBI, la police fédérale, publie son rapport d'enquête sur les courriels de Mme Clinton dans le cadre de la loi sur la liberté d'information.
Et Donald Trump se rendra aujourd'hui au Mexique pour y rencontrer le président Enrique Peña Nieto. Donald Trump, qui doit prononcer ce mercredi soir un discours très attendu sur l'immigration clandestine, alors qu'il dément envisager un adoucissement de ses propositions relatives aux quelques 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. La Turquie n'accepte pas l'annonce d'un cessez-le-feu avec les milices kurdes de Syrie, faite la veille par les États-Unis, a déclaré aujourd'hui le ministre turc des Affaires européennes Omer Selik à l'agence pro-gouvernementale Anadolu. La Turquie a lancé il y a une semaine une offensive sans précédent dans le nord de la Syrie afin de faire reculer les combattants de l'État islamique, mais aussi et surtout les milices kurdes dont elle redoute qu'elles forment un long corridor le long de la frontière turco-syrienne. La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a promis aujourd'hui de transformer la Birmanie en État fédéral une fois la paix signée avec les rébellions ethniques du pays qu'elle a réunies pour des pourparlers de paix inédits. Aung San Suu Kyi, au pouvoir depuis quelques mois après des élections à la fin de 2015, a fait de la fin des guérillas et de l'établissement d'un État fédéral l'une de ses grandes priorités. La Corée du Nord a exécuté un vice-premier ministre pour avoir fait preuve de manque de respect lors d'une réunion présidée par son dirigeant Kim Jong-un et envoyé deux autres cadres du régime en rééducation, a annoncé mercredi la Corée du Sud. Accusé d'être un agitateur anti-parti et anti-révolutionnaire, Kim Jong-un, ministre de l'Éducation, a été passé par les armes au mois de juillet. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.